Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, nous allons cette semaine, mais je l'ai sous les yeux, de Patrick Chalmel, Le Chien. Alors, je précise que c'est en Languedoc et en français, d'abord écrit en Languedoc et retransmis en français, donc Patrick Chalmel, Le Chien de la Centenaire et autres nouvelles pour la cause de notre langue. Alors, bien sûr, comme je disais, édition bilingue, Languedoc, français. Et c'est édité par le Bonnat du Périgord, voilà, et en 2024. Donc voilà, il y a, alors du même auteur évidemment, il y a toute une liste, il écrit beaucoup de choses. Et alors en français, en Languedoc et en français, il y a les Contes de la Pie en 2019, les Sept Fontaines d'Alvert en 2020, et les Nénuphars qui voulaient voir la mer en 2021, Ève et ses pêches en 2021 également, et les Contes du Griot en 2022. Et puis il y a aussi les Mémoires de Racine, Promesses de Fruits, et c'est une édition évidemment en 2023. Alors il y a au début de cet ouvrage un petit texte. Alors je vais vous le donner. À la mémoire de Pierre, c'est écrit en Languedoc, je vais le dire en français, à la mémoire de Pierre Barrier, Robert Benoît, Camille Chabanneau, Jean Daniel, Louis Delluc, Pierre Mirmont et Jean Monestier, auteur de grammaire et de dictionnaire de la Languedoc du Périgord, en témoignage de la vive reconnaissance. Et évidemment, c'est signé Patrick Chalmel. Alors voilà, on va voir un peu ce que nous dit. Il y a une introduction assez longue d'ailleurs, qui est intéressante pour, comment je pourrais dire, pour les origines et la pratique de la Languedoc. Alors ça s'intitule, en guise d'introduction, de langue à préserver et à transmettre. Alors, les nouvelles réunies dans ce petit livre trouvent leur inspiration et leur unité dans la volonté de préserver et de transmettre aux jeunes générations la langue du Midi, la langue d'Oc, riche d'une histoire glorieuse dont nous allons tout de suite dire quelques mots. Cette langue de culture et de vie mérite d'être connue dans toute la mosaïque de ses dialectes réellement parlés par nos anciens. Avant de connaître l'effacement actuel, notre langue, en effet, pour des raisons historiques, s'est diversifiée en une grande variété de parlers dans tout le Midi, tous plus inventifs et savoureux les uns que les autres, comme le bergeracois, dans lequel j'écris, parler du Périgord pourpre, et parler languedocien, comme son frère, du Périgord noir, le sarladé. Alors, en tant que sarladé, évidemment, je suis content que cela fût noté. Alors, en dehors de l'établissement de grammaire, de dictionnaire et de manuel scolaire, l'œuvre de conserver et de transmettre notre langue aux jeunes et aux moins jeunes passe aussi par l'écriture de romans, de contes, de poésie, de pièces de théâtre, aussi bien que de bandes dessinées et de tout autre type de littérature. Et à cette tâche que ce petit recueil veut, à sa modeste place et en amusant le lecteur, contribuer. Alors il y a un chapitre qui s'intitule « Languedoc, un chemin jusqu'à la gloire ». Ça fait beaucoup. Au temps où la langue, où la Gaule vivait sous la domination romaine, la langue latine avait fini par s'imposer auquel des élites sur l'ensemble du territoire jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Même si le peuple de son côté parlait en réalité une langue plus rude, plus simple, venue autant du latin que des dialectes locaux, des invasions germaniques, conduisirent d'ailleurs à une diversité majeure dans leur parler populaire dans le nord, et allait régner une langue, la langue d'Oï, davantage teintée de germanisme, tandis qu'au sud, dans le même temps, une autre langue serait parlée, demeurée davantage latinisée, celle-là la langue d'Oc. Et sa composante latine, originaire, ayant été mieux préservée, la langue du sud, notre langue d'Oc, en gardera de fait cette aire de parenté qu'on lui connaît avec les langues romanes d'aujourd'hui, l'espagnol, enfin, mettons le castillan quand même, le castillan ou l'italien par exemple, et surtout le catalan, probablement formé avant l'an 1000, la langue d'Oc au 11e siècle, même si déjà dialectal n'en manifeste pas moins une belle unité de fond, sans prédominance d'un dialecte sur un autre, mais avec des variantes entre dialectes plus minimes que de nos jours. Alors, il y a bien sûr un dictionnaire le dictionnaire historique de la langue française qui est de Alain Ré. Alors, il y a le dictionnaire Le Robert, et ça a été publié en 2016. C'est le poète italien Dante, né au XIIIe siècle, qui, même si elle n'était pas de lui, a popularisé l'idée de nommer les langues selon leur manière de dire oui. En langue du Midi, on disait déjà « oc », le plus souvent prononcé « o », comme aujourd'hui, alors que dans le Nord, le mot « oui » se disait « wal », prononcé « oi ». Coexistèrent aussi la langue d'oi, qui donna naissance au français moderne, et la langue d'oc. Malheureusement, la langue d'oc n'allait pas connaître la même fortune que la langue d'oi, la langue du Nord de la France. Alors, on va poursuivre un peu, je vais arrêter là ce chapitre, et il y en a un autre qui s'intitule « La langue dialectale ». Est une remarque, alors la langue dialectale est une remarque de vocabulaire pour commencer par convention au sein d'une langue comme la langue d'oc, différents parlés sont nommés dialectes, par exemple, comme le limousin, le gascon ou le provençal. Il y a un dialecte peut-être lui-même constitué d'autres dialectes encore assimilés et un unique dialecte par leurs caractéristiques communes, comme le dialecte languedocien, par exemple, au sein duquel soit les dialectes sarladais, bergeracois, agenais, et dans d'autres dialectes, les différents parlés qu'on peut y trouver, comme le parler bergeracois du pays de Vénine, appelé parfois patois. Oui. Bon, c'est vrai que c'est le nom générique qu'on emploie quand on parle languedoc, on dit qu'on parle, on parle patois. Alors, pour les textes, évidemment, il y a des mots qu'on retrouve finalement, j'en ai fait l'expérience, mais même en gascon, qu'on retrouve un peu, mais il y a quand même des différences. Le sarladais est un peu différent de ce qu'on peut parler ailleurs dans le département. Alors, un mot qui serait-il limité à cette acceptation technique ne serait pas péjoratif, alors qu'il est indubitablement, lorsqu'il est utilisé de nos jours pour désigner la langue d'oc dans le Midi ou le bergeracois en Périgord. Alors, on va poursuivre un peu ce texte, voici ce qu'on nous dit. Alors, certains occitanistes feignent de l'ignorer, étant à promouvoir et à enseigner une langue potentiellement unique qu'ils appellent occitan, et qui n'est en réalité qu'un dialecte de langue d'oc, parmi beaucoup d'autres, et le languedocien central généralement. Cette visée hégémonique ou cette usurpation représente d'ailleurs, à mon sens, un motif supplémentaire aujourd'hui du déclin de la langue d'oc. Nous y reviendrons un peu plus loin dans cette introduction et des nouvelles contenues dans cet ouvrage, comme l'est dit de la Duchesse. Ils ne manqueront pas non plus de rompre les lances avec les tenants et les vues de ces pratiques. Bref, c'est un fait qu'on ne pourrait contester. Notre langue, ou de ce qu'il en reste, n'est constituée aujourd'hui, si jamais elle a été autrement, un jour que d'une collection de dialectes incorporant chacun à l'une et à l'autre des quelques grandes formes typiques et caractéristiques, le provençal, le gascon, le languedocien, le limousin, qui heureusement ont en commun à lui donner 60% de leurs ressources. Je ne manque pas d'affaire l'expérience chaque année à la Sainte-Estelle. Alors la Sainte-Estelle, ben, c'est le congrès du Félibrige. Nous allons l'évoquer plus loin et nous comprendrons tous, plus ou moins venant de tous les coins du Midi, en dépit de la variété de nos parlers. C'est vrai que finalement, c'est quelque chose qui est organisé par les provençaux, bon, pas forcément en Provence, et on se comprend quand même assez facilement, je dois le dire. Et le provençal ressemble un peu quand même au périgordin que l'on parle. Bon. Alors, je vais continuer un peu cette lecture. Il n'en demeure pas moins vrai que la langue d'oc se ramifie en une multitude de dialectes qu'il faudrait lister si nous voulons inventorier de façon exhaustive la variété et la richesse de cette langue, une tâche d'ailleurs pratiquement impossible. S'agissant des seuls grands dialectes, ceux qui se sont essayés à les recenser, tels Frédéric Mistral lui-même ou Jules Ronjat, Jacques Allière ou Pierre Bec, peut-être le plus connu après Mistral, ont produit des listes qui ont le mérite d'exister, mais qui ne sont pas exactement les mêmes d'un auteur à l'autre. Et pour le détail de nos différents parlers, c'est plus compliqué encore. Si chaque dialecte, en effet, peut avoir quelques 70% de son vocabulaire, sa syntaxe en commun avec chacun des parlers voisins, mais pas les mêmes 70% naturellement avec chacun de ses parlers. dans la réalité du terrain, on passe plus souvent très graduellement d'un dialecte à l'autre, et en cheminant dans nos campagnes périodiques, par exemple, de l'aire centrale de nos dialectes au sens géographique d'un dialecte voisin, il n'est pas rare de rencontrer beaucoup de formes intermédiaires, oui. Chaque région est différente. Par exemple, l'autre, les terres sont limitées par des murs en pierre sèche qui n'existent pas beaucoup chez nous, et évidemment, les noms changent. Alors, on va poursuivre un peu ce que l'on dit. Alors, perdre notre langue, le progrès réussit. Alors, parce que cette fois, les gens de nos campagnes eux-mêmes collaborèrent avec enthousiasme à l'œuvre de l'effacement de la langue dans les têtes des enfants. Mais pourquoi un pareil suicide pourrait-il se demander? La réponse est malheureusement claire, d'une efficacité sans pareille, afin que nos enfants fussent modernes, pas de pommes arriérées de paysans comme eux, et s'ils réussissent leur vie, sous-entendu s'ils atteignent une bonne ou une meilleure situation matérielle. En effet, les objets, les techniques modernes d'après-guerre, le réfrigérateur, l'aspirateur et le tracteur, sans même parler des radios et de la télévision, arrivaient environnés à la fois de l'image positive du progrès et d'un nuage de vocabulaire français. Le français apparaissait donc naturellement comme la langue d'une enviable modernité. Par contraste, notre langue d'oc traditionnelle symbolisait immédiatement le passé, vu qu'elle ne savait pas parler de tout et de ce qui était moderne. Alors ça c'est peut-être pas vrai, parce que j'ai vu des transcriptions de textes quand même d'un certain niveau, soit en médecine ou ailleurs, et qui étaient traduits très, très facilement quand même en occitan. Bon, alors je vais continuer un petit peu. Bref, le français se présentait chez nous, après-guerre, comme la langue de l'avenir, ce qui ne voudrait pas que les enfants changeassent de langue afin de parler la langue du progrès et de mieux adapter au monde nouveau. Alors, ça c'était le chapitre, le progrès technique après la Seconde Guerre mondiale, et il y en a un autre, c'est l'occitanisme niveleur. Alors, éducation nationale, cette loi se traduisait par l'élaboration progressive d'une poignée de textes plutôt bien faits pour respecter les langues de France, et donc également. Mais les occitanistes s'opposèrent immédiatement à la reconnaissance de cette pluralité linguistique. Pour eux, les parlers réels du pays d'Oc, ce ne serait que des variétés des dialectes, et aucune façon digne de légitimation individuelle. S'agissant de notre langue, il se répartit dès lors en des discours marqués d'une grande confusion, parfois volontairement entretenue, ignorant même des études scientifiques susceptibles d'y mettre un peu d'ordre. Dans ce contexte, s'épanouit aisément et amplement l'industrie d'un occitanisme politique de gauche ou d'extrême gauche marxiste. Alors là, je ne rentre pas, bien sûr, dans les problèmes, de nos gauchistes ou marxistes et révolutionnaires à la poursuite d'objectifs politiques socialistes et autonomistes hostiles à la France et parfois clairement indépendantistes. Alors, ça, c'est un chapitre sur lequel je ne m'étendrai pas, bien évidemment, parce que on rentrerait sinon dans le système politique. Alors, on parlait du Félibrige tout à l'heure. Alors, peu après, au milieu du 19e siècle, Frédéric Mistral, jeune poète et écrivain provençal, commença son combat pour notre culture et notre langue, appelant les peuples du Midi à prendre conscience de l'effacement progressif et insidieux de leur langue et de leur culture, et à se réveiller. Voilà. Donc je vais arrêter là cette lecture, qui est tirée, bien sûr, d'une mode d'introduction, une langue à préserver et à transmettre. Et bien sûr, c'est un paragraphe du chien de la centenaire et autres nouvelles pour la cause de notre langue. Et c'est une édition bilingue, Langue d'oc français, et c'est publié par le Bonnat du Périgord en 2024. Voilà, mais je vous souhaitais sur ce une bonne semaine, sans trop de pluie, ma foi, même quoique le mois de mars, normalement, il doit pleuvoir. Voilà, au revoir et à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.